Vous écoutez France Culture.
C'était le journal de Stéphanie Skok. Il nous reviendra à 9h pour un autre journal. Bonjour à toutes et à tous.
Je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Je ne vous citerai jamais, même comme source anonyme. Vous resterez en eau profonde.
Aucun journal ne devrait ou ne voudra jamais publier cette histoire. Ce serait désastreusement irresponsable et calomnieux.
La noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information, c'est le secret des sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous les commentaires en direct. Au programme, retour sur l'affaire qui a alimenté tous les gros titres des médias en début de semaine, l'affaire Borloo-Veolia. Qui croire dans ce dossier? Qui a manipulé qui? Et quel rôle a joué la presse? Nous en parlerons tout à l'heure avec deux journalistes qui ont été au cœur de ces révélations. Éric Decouty de Libération et Julie Chauveau des Échos. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et avec Isabelle Véramasson du CNRS. Bonjour également.
Bonjour.
Auparavant, une question qui concerne tous les reporters de guerre. Comment travailler aujourd'hui en Syrie, en particulier pour les photoreporters, après la disparition à Homs cette semaine de Rami Sayed, Marie Colvin et Rémi Oschlik? Le tribut de la presse au conflit syrien devient lourd. Avec nous, l'un des grands noms du photoreportage depuis 40 ans, Patrick Chauvel, bonjour.
Bonjour.
Et Patrick Baz, bonjour.
Bonjour.
Patrick Baz, photoreporter également, chef du bureau Moyen-Orient de l'AFP en duplex de Nicosie. Chaque jour, la cité assiégée de Homs, bombardée par les soldats de Bachar el-Assad, se transforme donc un peu plus en ville martyre, rejoignant dans l'histoire les Sarajevo ou les Stalingrad. Et mercredi matin, Rémi Oschlik, 28 ans, et Marie Colvin, 56 ans, y ont donc laissé la vie pour nous informer.
What is going on and why is no one stopping this murder in Homs that is happening every day? These are 28,000 civilians. Men, women and children hiding, being shelled, defenseless. That little baby is just one of two children who died today, one of children being injured every day. That baby probably will move more people to think.
Les derniers mots, le dernier reportage de Marie Colvin mardi soir sur la BBC, évoquant ce bébé mourant parmi les 28 000 civils de Homs sous les bombes. Qui arrêtera ce meurtre? Interpellait notre consoeur, elle qui avait couvert tous les conflits. Quelques heures plus tard, elle était tuée avec le jeune photoreporter Rémi Oschlik dans un bombardement qui a également blessé deux autres de nos confrères, Edith Bouvier et Paul Conroy. Patrick Baz à Nicosie, Patrick Chauvel ici en studio. De toute évidence, tous les passeurs d'informations, qu'il s'agisse des blogueurs syriens ou qu'il s'agisse des journalistes occidentaux, sont aujourd'hui directement pris pour cible par Bachar el-Assad. C'est assez évident, il veut éradiquer les témoins, on peut dire ça comme ça, Patrick Chauvel?
Ça prouve qu'une chose, c'est que la presse est utile et la presse est efficace. Sans ça, pourquoi il ferait ça? Pourquoi on le gênerait? On le gêne parce qu'il fait des choses innommables et qu'il ne veut pas de témoins. Donc ça veut dire qu'on est efficace, ça veut dire qu'il faut continuer à y aller, ça veut dire qu'il faut continuer à faire ce travail. Et ça veut dire que les journalistes qui ont laissé leur peau là-bas ont fait un travail remarquable en leur honneur, ne serait-ce qu'une pour une raison déjà. Et il faut les Syriens, il faut absolument y retourner et y aller. C'est très difficile, c'est très dangereux, les guerres le sont toutes. Celle-là l'est particulièrement parce que les journalistes sont visés. Et il n'a absolument aucun complexe à les viser. Il y a même des rumeurs qui disent qu'ils ont reçu l'ordre de tirer sur le centre de presse parce qu'ils savaient que les journalistes étrangers
étaient
là.
Ce fameux centre de presse improvisé, on va dire, où sont notamment les blogueurs syriens.
Tout à fait, oui. Mais donc, ils ont dû avoir les signaux qui ont été émis par les téléphones satellites ou Internet. Et apparemment, la presse anglaise a signalé qu'ils avaient la preuve qu'il y avait eu des ordres directs, qu'ils avaient repéré les signaux. Ce qui compte, c'est que nos confrères ont fait un travail remarquable et qu'il faut prendre la suite. C'est le message qu'ils nous ont laissé.
Patrick Baz, à Nicosie, vous confirmez à tout le monde que le régime Assad ne veut pas de témoins et que donc il tue les témoins?
C'est évident. De toute façon, les téléphones portables, les smartphones sont les outils les plus dangereux pour les dictatures. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. D'où les blogueurs, tous les activistes qui filment avec leur téléphone. À l'époque, c'était le stylo, donc on emprisonnait les journalistes, on tuait les journalistes. Aujourd'hui, on tue les blogueurs, les internautes. C'est la même école. Pour ce qui est du centre de presse, oui, tout le monde savait où il était. C'était un secret pour personne. c'est une façon aussi de faire taire toutes les émissions et tous les témoignages à partir de Homs. La différence avec Hama, la ville qui a été rasée par le
père de Bachar el-Assad, Faisal Assad, il y a 30 ans.
C'est que Internet n'existait pas et les smartphones non plus. Donc, et que les journalistes étaient interdits d'accès et ne pouvaient pas y accéder. Aujourd'hui, on est dans une configuration totalement différente où on ne peut plus empêcher les gens de voir, ni de montrer, ni de parler, ni d'écrire.
Et en même temps, là, c'est ce que vous disiez, Patrick Chauvel, on est face au défi par excellence du journaliste et du photoreporter de guerre, c'est-à-dire qu'il se doit d'être le témoin direct. C'est son travail, après tout, si on doit tout résumer à quelque chose, c'est ça son travail. Et en même temps, là, être le témoin direct, ça veut dire risquer de mourir, c'est aussi simple que ça.
C'est un métier dangereux, hein. C'est un secret pour personne, c'est un risque qui ne nous plaît absolument pas, mais qu'on accepte, ça fait partie de ce job. Les risques sont très très forts à Homs, parce que c'est une enclave, c'est enclavé, donc une fois que vous y êtes, c'est très difficile d'échapper aux obus. Et ensuite, pour en sortir, c'est encore plus compliqué, parce qu'à partir du moment où vous êtes rentré, ils savent que vous êtes là. C'est plus facile d'entrer que de sortir, en fait. Ils savent que vous êtes là et ils savent que vous avez vu des choses. C'est-à-dire que ce que vous avez vu vous rend encore plus dangereux pour le régime.
C'est donc, ça que vous êtes le témoin direct, parce que souvent dans cette émission, on se pose la question des sources auxquelles le journaliste a accès, mais dans ces cas d'espèce, le journaliste est la source lui-même, puisqu'il est le témoin direct.
Bah, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, un travail, c'est une chaîne. Vous avez le Syrien qui va filmer avec son téléphone, on va recevoir cette info, on va en parler dans les rédactions, on va partir vérifier cette source, et du coup, nous aussi, faire des images. Et c'est les deux informations ensemble qui vont donner la possibilité aux lecteurs, à ceux qui lisent et regardent les journaux, de se faire leur opinion. C'est le public maintenant qui nous informe, et nous, on informe le public en retour. Donc nous, on vient confirmer cette source.
Alors parmi ces très rares témoins des massacres de Homs, il y a Mani, dont les images, les photos, les vidéos font le tour du monde depuis quelques semaines. Par exemple, ces images diffusées cette semaine sur Channel 4 en Grande-Bretagne. Images, vous allez l'entendre, au son saturé à cause de ces manifestations, au cri de Huria, liberté.
C'est un photographe qui travaille pour Le Monde.
Voilà, c'est Mani qui travaille notamment pour Le Monde, aussi pour des chaînes et des journaux britanniques. Ce sont des images assez stupéfiantes. Vous trouverez bien sûr le lien sur le site de l'émission, sur franceculture.fr. Il faut vraiment aller regarder ces images. On en parlait, Patrick Braz, tout à l'heure, hors micro, en préparant l'émission. On est littéralement avec ces images dans la guerre à Homs. C'est vraiment le photoreportage de guerre par excellence.
C'est vraiment impressionnant. Ça m'a rappelé, Patrick Chauvel va s'en souvenir aussi, ça m'a rappelé les images de Beyrouth des années, début des années 80. C'est absolument dingue. Ils se comptent sur le bout des doigts, les photojournalistes qui ont pu rentrer à Homs. C'est un travail exceptionnel, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de passion pour ce métier. Je veux dire, nous, je me souviens, on l'avait fait quand on était un peu plus jeune, mais je ne sais pas si aujourd'hui je prendrais les mêmes risques qu'a pris Mani. Je ne sais pas, il faut y aller, c'est tout. Et puis, moi, ces images-là m'ont vraiment impressionné.
On a eu avec les soulèvements arabes, dans l'ordre, la Tunisie, l'Égypte, la Libye, aujourd'hui la Syrie, on a l'impression que un pays après l'autre, c'est de plus en plus compliqué. On est sur des théâtres de guerre de plus en plus compliqués. Patrick Chauvel.
Moi, je crois que tous les théâtres de guerre sont compliqués. Alors, je ne sais pas si vous parlez des événements ou si c'est le travail des journalistes, mais en Égypte, c'était loin d'être simple. Hein. C'est,
sur la place Tahrir, il y a eu des scènes difficiles.
Oui, ouais. Et puis il y a des femmes journalistes qui ont payé très très cher leur métier, enfin le témoignage qu'elles essayaient d'offrir aux gens. Moi, j'ai dû être arrêté 5 fois entre l'aéroport et la ville, avec Jérôme Cessini et Antoine Nova, qui étaient 2 photographes qui m'accompagnaient. C'était très, très difficile et ça pouvait être très dangereux. Je crois que, oui, bien sûr, il y a des degrés de danger. Là, en Syrie, c'est systématique. On est devenu l'ennemi, c'est très clair. En Libye, c'était dangereux aussi, mais plus par hasard, parce que c'était des bombardements. Mais on a quand même perdu des confrères, des vrais professionnels et des très bons. Les Libyens, les journalistes qu'ils ont fait prisonniers, ils les ont rendus et à peu près en bon état. C'était une armée assez disciplinée quand même. Tant qu'en Syrie, j'aimerais pas être fait prisonnier en ce moment. Je pense que ça se passerait très mal. On rentrerait plus dans la catégorie des disparus très vite, à mon avis. Mais là, ce que je tenais à dire, d'abord, je pense aux familles. Il y a la famille de Rémi et du journaliste syrien et de Marie, bien entendu.
Sayed.
J'ai vraiment une grande admiration pour tous ces journalistes qui ont osé s'enfermer à Homs et rester là-bas.
Dont bon nombre de jeunes journalistes, hein, parce qu'on a vu apparaître avec les soulèvements arabes, il y avait une génération de photoreporters et de reporters qui étaient nés en quelque sorte avec l'ex-Yougoslavie, on s'en souvient.
Bien sûr.
Et là, il y a le même phénomène avec les soulèvements arabes.
L'ex-Yougoslavie a fait découvrir dans le monde du journalisme des gens comme Rémi Ourdan, qui était tout jeune, comme Luc Delahaye, Ron Aviv, enfin il y a eu plein de journalistes qui se sont révélés là. Et toutes les guerres révèlent des journalistes quand elles sont suffisamment longues. Et effectivement, moi, quand je suis allé en Libye en avril l'année dernière, j'ai rencontré et découvert tout un groupe de jeunes photographes français, anglais. Incroyable, formidable. Ça m'a fait un bien de les voir. Ils y croyaient, ils étaient sincères, presque naïfs, romantiques en tout cas. Et ils ont. Et la question, c'est.
Vous êtes revu, c'est ça, Patrick Chauvel, débarquant sur la guerre des six jours.
Ah, ils étaient mieux que moi. Ils étaient mieux que moi. D'abord, ils étaient bons photographes au début. Moi, j'étais très mauvais. Non, mais c'était vraiment des gens passionnés. J'ai d'ailleurs eu une longue conversation avec Rémi au bord d'une route, etc. Il m'avait raconter ses envies, et je connaissais pas son talent à l'époque, je l'ai rencontré pour la première fois. Il s'est révélé après être un phénomène, un des grands photographes, et il y en a plein des jeunes comme ça maintenant aujourd'hui qui y vont, quoi. Et ça, c'est quand même un vent frais pour le journalisme, en tout cas en ce qui concerne la photo. On a toute une génération qui prend la suite, prend la relève. Et ce sont des gens formidables, il faut vraiment le dire, quoi. Ils sont prêts à prendre des risques. Regardez comment il s'appelle le photographe qui est à côté d'Edith sur la vidéo.
Paul Conroy.
Paul Conroy, c'est un nom anglais, mais il est français apparemment.
Et oui, il y a Paul Conroy et William Daniels qui sont avec Edith.
Mais ce garçon parle, il est très calme. Pourtant, on entend les bombardements derrière lui. Il est très calme, il est convaincu de ce qu'il fait. Ils demandent de l'aide, mais c'est normal parce qu'ils sont dans une situation difficile et qu'il faut ramener cette journaliste et essayer d'en profiter pour ramener les blessés syriens. Mais il est calme et ce type s'est mis lui-même, comme elle, à l'intérieur d'un truc, sachant très bien ce qu'il risquait.
Alors, puisque vous parlez,
et ce ne sont pas des gens irresponsables, hein. Ce sont des gens qui croient à ce qu'ils font.
Puisque vous parlez du travail de Rémi Hochelig, j'aimerais qu'on écoute quelqu'un que vous connaissez bien, certainement tous les deux, Patrick Baz et Patrick Chauvel. C'est Marc Brincourt de Paris Match qui évoque donc le travail de Rémi face à l'une de ses photos.
On n'est pas au téléobjectif, là. On est vraiment, on voit même son ombre à Rémi, hein. Il est à un mètre de l'action, quoi.
C'est quelqu'un qui était très, très calme, très posé. Mais bon, voilà, il avait pas peur et il allait au plus près, comme je disais, au plus près de l'action. Donc, pour moi, c'était quelqu'un qu'on a repéré très vite grâce à la force de ses images.
Un autre témoignage très court, un autre grand nom du photojournalisme, Laurent van der Stock, essayant, lors du dernier prix Bayeux du reportage de guerre, d'expliquer les ingrédients de l'image de guerre. Écoutez.
Une bonne image, c'est une image qui a un contenu qui permet la compréhension d'un événement à celui qui ne le connaît pas. Après, bien sûr, il y a toutes les qualités que peuvent faire une image, c'est son originalité, son point de vue, sa cohérence et sa pertinence par rapport à ce que deviendra l'événement qu'on est en train de vivre 20 ans plus tard. C'est-à-dire que quand un photographe fait ses clichés, c'est une chose. Bien sûr, il y a le travail de prise de vue. Il y a aussi beaucoup de travail à l'editing. Et c'est à lui d'abord d'avoir en direct, et au moment où c'est le plus difficile, c'est-à-dire au moment où ça se passe et sans aucun recul, comprendre ce qui fait l'essence de cet événement pour le passer à l'autre.
Passer à l'autre, hein. Comprendre pour passer à l'autre, dit Laurent van der Stock. On mesure là, Patrick Baz, le défi du photoreporter de guerre, c'est-à-dire d'un côté aller au plus près, parce que c'est ça l'idée quand même, et en même temps penser, en prenant le cliché, à ce qui restera peut-être dans l'histoire. C'est un défi incroyable.
C'est très prétentieux ce qui restera dans l'histoire. C'est surtout, je dirais, ce qu'on veut publier, ce qui va passer dans les journaux. Je ne sais pas si ce qui restera dans l'histoire. Mais c'est surtout à faire une bonne image, à penser à cadrer, penser à la lumière. En fait, le problème, c'est que le danger provient surtout du fait que nous sommes dans une bulle et que nous avons tendance à oublier ce qui se passe autour, c'est-à-dire le danger, c'est-à-dire tous les risques qu'on prend. C'est là où le danger est très présent, quoi. Et là, nous avons tendance à l'oublier parce que nous pensons à nos images, nous pensons à le cadrer, nous pensons à faire de la photo.
Patrick Chauvel, dans ces cas-là, la peur est bonne conseillère ?
Je ne sais pas si elle est bonne conseillère, mais elle est là. Hein, donc voilà, on fait avec. Hein. Mais on a aussi peur de rater la photo. Il n'y a pas que la peur de mourir, il y a la peur de rater la photo, il y a la peur d'être manipulé, il y a la peur d'être pas au bon endroit, il y a beaucoup de peur. Hein. Mais j'appellerais pas ça des peurs, c'est des angoisses. Il y a des moments où on a plus peur, il y a des moments où on est content, il y a des moments où on n'a pas peur. Je pense que l'essentiel, c'est parce qu'on pense pas à autant de choses que ça, je crois. Enfin, c'est effectivement, Van der Stok le dit et il a raison.
Il le théorise a posteriori.
Il le théorise, ouais. Mais si tu veux, sur le terrain, on n'a pas trop le temps. Ça va très très vite, il se passe plein de choses. Je crois que l'essentiel est une des clés pour un journaliste et un photographe, en l'occurrence aussi. Et peut-être un peu plus parce qu'il va s'approcher des gens et il va peut-être les gêner et les agresser un peu avec l'appareil photo, c'est de trouver la bonne relation avec les gens et la bonne compréhension avec les gens qu'on photographie et garder la bonne distance surtout. Et c'est pas toujours facile à trouver, c'est vraiment au feeling que ça se passe. La plupart du temps, les gens ont envie qu'on raconte leur histoire et s'il faut se laisser photographier pour ça, ils se laissent photographier. Mais il y a une question de distance aussi. Il ne faut pas non plus qu'ils se mettent à jouer la comédie pour nous. Donc il y a une distance à faire. Et ça, c'est instinctif, c'est très rapide. C'est la chose qui s'apprend sur le terrain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rencontre des gens. Il y a un accord tacite qui se fait. Je vis ça, je souffre. J'ai ce message à faire passer. Est-ce que tu peux m'aider? Et le journaliste qui, à toute allure, va calculer comment il peut faire passer ce message sans être manipulé lui non plus. Et après, c'est une forme d'osmose entre les personnages avec qui on est sur le terrain. Alors après, le danger, oui, bien sûr qu'il y a un danger, bien sûr qu'il y a la peur, bien sûr qu'il y a chacun a son caractère et sa façon de réagir. Mais je pense que l'essentiel, c'est que les gens ont envie qu'on raconte leur histoire. Et nous, il faut qu'on donne envie aux gens à Paris, Londres, New York ou ailleurs de lire ce qu'il y a dans l'histoire et de les accrocher avec les images. Et si on a de la chance, comme disait Patrick Baz, c'est que ça devienne un jour, que ça fasse partie des témoignages de l'histoire avec un grand H.
Photo reporter en Syrie, comment continuer à témoigner face à un extrême danger en compagnie de Patrick Chauvel et de Patrick Baz, à commenter, à podcaster sur les réseaux sociaux et sur le site du Secret des Sources sur franceculture.fr. Comme chaque semaine, notre spécialiste du multimédia, Éric Chavroux, nous a rejoint. Bonjour Éric.
Bonjour.
On ne peut pas évoquer ce travail du photoreporter de guerre sans s'arrêter sur l'évolution technique ultra rapide de ces dernières années. Pêle-mêle, hein, citons la disparition de Gamma, la faillite de Kodak, l'essor tous azimuts évidemment du multimédia. Alors du coup, les photojournalistes, Éric, explorent ces nouvelles techniques tout en s'interrogeant forcément sur le sens de leur métier.
Oui, et s'interroger d'autant qu'ils sont face à une concurrence inédite, c'est celle des amateurs.
On évoquait tout à l'heure.
Voilà, de millions d'amateurs qui sont armés de leur téléphone portable. C'est maintenant l'appareil photo le plus vendu dans le monde depuis un moment maintenant. Des amateurs qui sont de plus en plus aguerris aussi au partage de photos par des outils comme Twitter, comme Flickr, et qui peuvent aussi vendre leurs clichés à des agences spécialisées en ligne, comme par exemple CitizenSide, qui est basée à Paris, et qui a très vite vu l'agence France Presse entrer dans son capital.
Alors, il y a plein d'expériences avec ces nouvelles techniques. Hein. Patrick Chauvel, vous en avez conduit une d'ailleurs pour l'iPad, avec ses images à 180 degrés. Il y a aussi cette autre expérience, Eric, de l'iPhone de guerre, c'est ça, d'un grand journaliste de Associated Press.
Oui, alors c'est l'Américain David Guntenfelder, récompensé par plusieurs prix World Press. En fait, c'est en suivant il y a deux ans au front en Afghanistan des Marines qu'il y a pensé parce qu'il venait d'acheter son téléphone. Et puis, il s'amusait avec une application qui permettait de générer des comme des Polaroids, en fait. Et du coup, il en a tiré une série de 30 photos. Son agence l'a publié en ligne. Ça a été repris sur le site du Monde. Et ça a été contesté tout de même par certains qui ont dit que, en fait, c'était davantage le côté artistique que le côté photojournaliste
parce que forcément, on retombe sur la question clé. Alors là, c'est encore plus important avec la question du multimédia, c'est comment vendre ces photos. Ça évolue lentement quand même. Hein.
Voilà. Alors, il y a quelques pistes. On s'éloigne un peu du front, mais il y a le web documentaire, la mecque du photojournalisme, le festival Visa pour l'image, depuis deux ans maintenant, récompense les web documentaires. Et puis, il y a aussi le financement direct, cette fois par les internautes. La semaine prochaine, la plateforme Emphasis, par exemple, c'est emphas.is.
Là aussi, le lien sur le site de l'émission.
Voilà, va fêter son premier anniversaire. C'est réservé à des projets de professionnels, hein, c'est important. Et on va écouter son cofondateur, Karim Ben Khalifa, qui a couvert de nombreux conflits, qui est
photojournaliste. Yémen, notamment, cette année.
Voilà, qui est photojournaliste et qui est un homme ravi.
Totalement. Je pense que le pari est réussi parce que aujourd'hui, on a fait plus de 240 000 dollars de photojournalisme qu'on a renvoyé vers les photographes. C'est plein d'histoires, c'est 19 projets financés. Ça veut dire des gens qui ont travaillé avec la liberté pour produire leurs travaux. Le temps, l'argent, les connaissances et les contacts. Et même au-delà, il y a certains photojournalistes qui ont collaboré avec certaines personnes qui ont financé une partie de reportage pour 10 dollars, par exemple, mais qui leur ont aussi donné des informations sur le terrain sur lequel ils allaient, parce que ces gens-là connaissaient le terrain.
Alors évidemment, tout ça, c'est encore un peu balbutiant, hein. C'est léger. On va signaler aussi l'initiative du magazine Polka. On avait reçu Alain Genestard ici, qui permet, grâce à un site dédié, d'acheter les photos que le magazine a publiées. Et puis, bien sûr, tous les indépendants, photojournalistes, ont leur propre site et on y retrouve.
Rémi Hochelig, hein, par exemple. Voilà. Hochelig.com, là aussi, vous trouverez le lien, bien sûr, sur le site du Secret des Sources. Patrick Chauvel, Patrick Baz, est-ce que cette évolution technique avec... la simplification qu'elle implique, parce que le matériel est 10 fois plus léger, il y a plus à se trimballer les pellicules, etc. Est-ce que paradoxalement, elle ne conduit pas à prendre plus de risques? Parce que comme c'est plus simple, qu'on a moins à se trimballer, ben on va aller plus près en prenant plus de dangers, en devant transmettre plus vite aussi, Patrick Chauvel?
Non, je ne pense pas, non. On va moins au bar le soir, puisque le soir on envoie, alors qu'avant on allait au bistrot, et on envoyait une fois par semaine. Alors, en revanche, on a plus l'occasion de travailler. C'est-à-dire qu'avant, dès le mercredi, il fallait penser au deadline, c'est-à-dire au bouclage, le bouclage de Stern, le bouclage de Match, le bouclage de Newsweek et de Time, qui était à partir du jeudi, il fallait que les films soient ou à New York ou à Paris. Donc là, ça passait par louer un cheval, un âne, trouver un passager, prendre un bateau, et on perdait 4 jours. Donc on travaillait la moitié de la semaine seulement. Aujourd'hui, on peut travailler tout le temps.
On trouve de l'internet, on déploie...
En revanche, si vous allez au bar le soir, il n'y a plus personne, parce que tous les photographes sont en train de photoshopper et d'envoyer leurs photos. Sauf moi, parce que je ne sais pas comment ça marche. Mais en revanche, pour les sources indépendantes, ce qui est génial, c'est que moi, j'ai des copains qui ont un restaurant qui s'appelle le Cugini, qui fait une pizza doc, et elle coûte 4 euros de plus que les autres, c'est-à-dire 18 euros au lieu de 14, et en petit, il y a marqué « pour financer les documentaires ». C'est les miens. Alors, je pense qu'au rythme où ils vendent les pizzas...
L'appel est passé.
En 2034, je pourrais faire un 15 minutes.
Un mot là-dessus, Patrick Baz. Qu'est-ce que ça change fondamentalement au travail du photo-reporter, ces nouvelles techniques du multimédia? Est-ce que ça modifie radicalement le travail ou pas?
Ça donne un peu plus de travail. Mais pour ce qui est de l'outil, nous n'allons pas au front avec des téléphones portables. Nous avons effectivement distribué des téléphones portables à des photographes avec des objectifs un peu plus sophistiqués. Je veux dire, certains téléphones portables ont des objectifs un peu plus sophistiqués, ce qui permet de faire des images de haute définition, parce que aujourd'hui, il est plus facile de faire des photos avec un téléphone portable que d'arriver avec 2 boîtiers accrochés autour du cou. On passe plus facilement avec un téléphone dans la poche qu'avec 2 boîtiers. Mais franchement, l'arrivée de toutes ces technologies ne nous donne que du travail en plus, comme le disait très bien Patrick Chauvel. C'est-à-dire que nous devons alimenter d'autres médias. À mon avis, ça donne beaucoup plus d'ouverture. Beaucoup plus de moyens de s'exprimer que d'aller trop vite.
Enfin, il faut faire attention à la vitesse aussi, pardon. Moi, je me rappelle qu'au sud Liban, les musulmans prenaient les villages les uns derrière les autres, gagnaient sur les chrétiens, et j'étais avec les chrétiens. Et un prêtre maronite, à un moment donné, a vu que les musulmans brûlaient son église, et il a attrapé la mitrailleuse de 50 mm, et il a ouvert le feu, il était en soutane. Donc ça faisait une excellente photo. Donc je l'ai envoyé avec mon âne à travers la Beka pour que ce soit publié en France. Il est venu me voir 4 heures après en me disant qu'il avait été touché par le diable et que cette image ne représentait que lui dans un moment d'égarement et qu'il aimerait bien que cette photo ne soit pas publiée. Je lui ai dit, tu l'as fait, je l'ai photographié.
Je ne peux pas rattraper l'âne.
Et il m'a dit, oui, mais voilà, les musulmans respectent les hommes d'église. Ils n'ont tué aucun prêtre en avançant dans les villages. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand ils verront cette photo? Donc j'ai appelé Henri Bureau à l'agence Sigma et je lui ai dit « Enlève la photo du prêtre qui tire ». Ça, c'est 2 jours après. Et il m'a dit « Mais t'es fou, elle est sublime ». J'ai dit « Oui, mais non, ça ne représente qu'un homme qui fait un moment d'égarement, comme il disait à ce moment-là, et ça va faire tuer d'autres gens, donc ça ne vaut pas une double dans le match ». Donc on a retiré la photo. Mais imaginez aujourd'hui la même situation, c'est trop tard quand il vient me voir. Donc il faut qu'on réfléchisse très vite à la portée de nos images. Il faut faire très attention à ça. on se rend pas compte parce que sur le, enfin, on se rend compte, mais sur le terrain, on fait des choses, on va vite, et comme vous dites, c'est dangereux, on n'a pas le temps de réfléchir, on a des réflexes. Et c'est là où le talent de certains photographes, comme justement Rémi, c'est dans ces situations de stress, il a le réflexe, il a l'œil, il a toutes les qualités pour faire les photos. Mais en même temps, il faut réfléchir. Parce que quand on va les envoyer, on a quelques heures pour les envoyer en disant « qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vraiment vu ?» Parce que c'est une chose de regarder, de voir, enfin en tout cas de subir les images. Mais après, il faut essayer de faire attention à part de faire n'importe quoi. Ça peut être contre-productif, il faut... Il faut faire attention quand même.
Patrick Chauvel, Patrick Baz, merci à tous les deux. Dans un instant, la curieuse affaire Borloo-Veolia dans le deuxième volet du Secret des Sources. Ce sera juste après une grande voix syrienne, l'un des maîtres du chant sacré. Il nous vient de la belle cité d'Alep, Omar Sarmini, Mark Dubi Kassa. Sarmini. Attardons-nous donc à présent sur la controverse économico-politique de la semaine en France, l'affaire Borloo-Veolia. De lundi à mercredi, elle a fait les gros titres partout, en particulier en raison du travail d'enquête de nos deux invités ici même, Julie Chauveau des Échos et Éric de Couty de Libération. On rappelle les faits très brièvement. Selon ces enquêtes, le patron d'EDF, Henri Proglio, aurait tenté, avec la bienveillance de Nicolas Sarkozy, de placer à la tête de Veolia Environnement, de ses 110 000 salariés et de aussi ses centaines de millions d'euros de pertes, un certain Jean-Louis Borloo. Lundi, en pleine campagne électorale, tous les adversaires du président candidat montent au créneau, par exemple et entre autres François Bayrou.
Les relations incestueuses perpétuelles que connaît la France entre le pouvoir politique et les grands intérêts économiques et financiers, ça suffit.
En face, Nicolas Sarkozy, interpellé dans la rue par nos confrères de BFM TV, se contente d'une réaction sibylline. Voici la scène, tendez un peu l'oreille.
L'Élysée serait derrière une éventuelle nomination.
C'est absurde.
Voilà, c'est absurde, dit Nicolas Sarkozy. Après 48 heures de controverse, mercredi, Jean-Louis Borloo finit par dire que finalement, il reste en politique, qu'il va se présenter aux législatives, étonnant épisode, épilogue pardon, d'une guerre éclair qui s'est donc livrée en deux jours. Éric de Couty, Julie Chauveau, vous sortez tous les deux cette histoire, cette enquête dans vos journaux respectifs lundi matin. Alors, je ne vais surtout pas vous demander de citer vos sources, mais globalement, par quel cheminement, en gros, vous parvient l'information sur cette tentative, on va dire, de putsch d'Henri Proglio à la tête de Veolia ? Comment ça arrive jusqu'à vous ?
En ce qui me concerne, l'affaire Borloo, au sens large, nous intéresse depuis de longues semaines. La question au départ étant de savoir pourquoi, et elle reste posée, pourquoi Jean-Louis Borloo a renoncé à l'élection présidentielle. Il y a plein de rumeurs qui circulent. En tous les cas, c'est toujours un sujet d'investigation. Et donc, ça fait longtemps, depuis quelques semaines, quelques mois, qu'on s'intéresse à Borloo, essayer de comprendre. Et de fil en aiguille, on est arrivé ces derniers jours de la semaine dernière à avoir des rumeurs assez insistantes sur le fait que Borloo était pressenti pour prendre la tête de Veolia.
Une rumeur, c'est pas une information, on est d'accord.
Non, c'est pour ça. Donc on est au stade de la rumeur. Fin de semaine, autour de jeudi, quelque chose comme ça, jeudi, vendredi dernier. Et la rumeur, c'est des voix qui vous portent cet écho-là. Donc ensuite, le boulot consiste à vérifier, consiste à savoir de quoi il retourne. Et donc, ça va assez vite, en fait. Vendredi, samedi, dimanche, en ce qui me concerne, j'ai la certitude que Jean-Louis Borloo est bien dans les tuyaux pour être installé à la tête de Veolia.
Et que plusieurs administrateurs du conseil d'administration ont été contactés pour aller dans ce sens-là.
Les choses sont confirmées. Mmh. Je vais attendre le dernier moment pour appeler Jean-Louis Borloo. Je crois que c'est vendredi, en début d'après-midi, quelque chose comme ça. Et ce sur quoi je bute, c'est sur ce qui me pose problème. J'ai pas tellement de doutes dans le premier temps, mais ça m'est confirmé de trois à quatre sources qu'il y a eu une intervention de l'Élysée, au sens il y a un coup de pouce, il y a un feu vert qui est donné. Et ce qui, moi, va cristalliser mon attention et qui va faire que je vais gratter, comme on dit, un peu en vain, c'est que j'ai deux sources qui me disent que Nicolas Sarkozy a appelé un des actionnaires personnellement, à savoir les Qataris.
5% du capital.
5% du capital, jeudi matin. Et donc, je vais quasiment pas l'évoquer dans le journal de lundi matin. C'est le dernier doute que j'ai avant de publier.
Julie Chauveau, même question vous. Alors, vous avez un autre profil, puisque vous connaissez très bien ce secteur de ces entreprises-là. Ça veut dire qu'on vous dit tout et que vous savez tout progressivement au fil des dernières semaines?
Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on part chacun d'un bout totalement opposé. Éric de Couty part du côté politique et suivi de Jean-Louis Borloo. Moi, je pars du côté de venir de cette entreprise et de cette entreprise qui est complètement particulière dans le paysage industriel français. Moi, je sais depuis très longtemps que Proglio veut se débarrasser de Frérot.
Donc, c'est, qui est actuellement à la tête de Veolia.
C'est son dauphin.
Et auquel il a passé la main.
Voilà, c'est son dauphin et il lui a passé la main. Ils se connaissent depuis 25 ans. Ils sont compagnons d'armes, à la tête de Veolia pendant des années. Et en même temps, il ne peut pas supporter que Frérot décide de changer des choses. Il ne peut pas supporter qu'il décide de fermer des pays. Enfin, voilà. Et donc, il y a une vraie guerre entre les deux hommes. Ils se sont vraiment parlé de manière très forte et se sont opposés pendant les conseils d'administration. Donc voilà, c'est très violent et très sanguin entre les deux hommes. Donc ça fait longtemps que je suis les divers épisodes. Moi, je suis cette entreprise depuis 20 ans. Donc
c'est donc pareil, voilà. Vous avez suffisamment de sources fiables, pour dire lundi matin
et
dans
par
les
ailleurs,
échos.
Il se trouve que les hasards de la vie font que j'ai suivi pendant 20 ans les questions d'environnement et que donc... Jean-Louis Borloo, je le connais, j'ai pendant 11 ans les questions d'environnement, et donc Jean-Louis Borloo, je connais son entourage, enfin voilà, j'ai un petit peu les pieds des deux côtés de l'histoire. Moi, c'est vendredi soir que j'ai commencé à avoir les premières vraies certitudes, et en gros, mon papier était écrit samedi soir. J'avais à peu près qui Borloo avait rencontré.
Parmi les administrateurs,
voilà, quelques scènes recoupées de plusieurs personnes. Et j'avais aussi, alors contrairement à Éric de Couty, moi j'ai cherché aussi qui étaient les autres.
Candidats putatifs,
voilà. Contrairement à lui, moi je suis un petit peu dubitatif par l'aspect 100% politique de cette histoire. Je pense qu'il y a d'abord une vendetta personnelle ou il y a d'abord un problème personnel entre les deux hommes.
Voilà.
Et donc je pense que Proglio a d'abord Borloo, que ça a été approuvé d'une certaine manière par l'Élysée. Moi, j'ai pas les sources suffisantes pour le savoir. Mais par contre, je suis sûre qu'il a cherché d'autres personnes. Enfin, qu'il y a les deux en même temps.
Éric de Couty.
Oui, non, je suis d'accord, l'affaire n'est pas 100% politique. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on place le mot politique. C'est vrai, je suis convaincu de ça aussi, qu'au départ, c'est Proglio et Borloo qui montent l'opération, évidemment. C'est pas Sarkozy qui est à la manœuvre. Mais Nicolas Sarkozy, dans le dernier temps, les semaines dernières, je pense que l'affaire PhotoWatt, si on rentre dans le détail, est importante. C'est le moment où Henri Proglio, et
vient
Nicolas
sauver
PhotoWatt
à la demande du chef de l'État.
Ils vont se voir à plusieurs reprises. Et Henri Proglio a besoin, pour passer à l'acte, pour concrétiser son affaire, il a besoin de ce coup de pouce politique essentiel. Et c'est Nicolas Sarkozy qui va lui donner, avec les Qataris, a priori, enfin, j'en ai la conviction, et avec, il va y avoir cette espèce de quitus, de feu vert de l'Élysée qui va leur permettre d'avancer très vite leur pion, avec aussi, on pourra en parler, enfin, l'intervention d'Alain Minc.
Excusez-moi, Éric de Couty, vous allez assez loin quand même dans certains de vos articles. En début de semaine, vous disiez, alors ils s'en sont parlé dans l'avion en allant à PhotoWatt. Attendez, vous avez des micros, vous planquez dans l'avion
présidentiel,
là, expliquez-nous, parce qu'on m'a fasciné quand même.
On m'a posé la question à plusieurs reprises. J'ai pas de documents écrits ni d'enregistrement, mais j'ai la certitude, à savoir plusieurs sources très recoupées, très précises, qui se sont parlées dans l'avion. Et ça a été le dernier moment où ils se sont parlés. Ils se sont parlés de cette affaire-là, avec leurs propos qui ont été rapportés, si on rentre dans le détail, le mercredi et le jeudi suivant, je crois que c'est ça, il y a des personnes, si on rentre dans le détail, en tous les cas, des administrateurs l'ont rapporté. Et de deux ou trois l'ont rapporté exactement dans les mêmes termes.
Bon,
Quand Henri Proglio descend de l'avion, il va en parler, et on a la conviction, la certitude qu'ils se sont parlé, Nicolas Sarkozy et Henri Proglio, dans l'avion, les ravenant de PhotoWatt.
Alors, on ne va pas encore une fois griller vos sources, comme on dit, mais si
hypothèse d'école, des administrateurs de Veolia ont parlé à un moment ou à un autre à certaines personnes qui elles-mêmes ont parlé à des journalistes, on va dire ça par exemple comme ça, ça veut dire que vous faites objectivement le jeu de ces administrateurs en question, en tête desquels peut-être Antoine Frérot, le patron actuel de Veolia. Est-ce que quand on publie l'article, on se dit, tiens, je suis en train de faire le jeu de tel ou tel patron d'entreprise, Julie Chauveau?
D'abord, il faut
Est-ce qu'on se pose cette question-là?
Bien sûr. D'abord, il faut faire très attention. C'est une entreprise où il y a plus de 100 000 salariés. Et avant d'écrire, quelque chose de personnel sur les gens et deux, sur les entreprises, on réfléchit un petit peu. Mais là, l'info, elle est trop grosse. Et surtout, elle est située dans un contexte de détestation entre les deux hommes. Il y a un moment où les choses doivent être dites. Et il n'y a plus de, raison de se taire. Même si on a très, très peur. D'abord, moi, parce que ça touche les gens. J'ai toujours peur de gêner la carrière des gens. Enfin voilà, je trouve qu'il y a d'abord un respect par rapport aux individus qu'il faut avoir, et ensuite parce qu'il y a 100 000 salariés derrière et que c'est une entreprise, c'est le premier employeur français, cette société. Mais en même temps, c'est une société qui a une aura et qui a une place dans l'imaginaire collectif des Français qui est complètement à part. Enfin, c'est une société.
Oui, parce qu'elle s'occupe de l'eau.
Voilà, elle s'occupe de l'eau, elle s'occupe des déchets. Son chiffre d'affaires, c'est nos factures. Donc, on a tous l'impression que cette boîte, elle nous appartient quelque part. Et donc, dès qu'on...
Donc, c'est d'intérêt public, c'est ça que vous voulez dire. Et peu importe de savoir si on est manipulé ou pas. C'est ça que vous voulez dire.
Non, ça, il faut toujours garder ça en tête. Non, ça, c'est impossible de l'oublier.
Un mot là-dessus, Eric Decoutier.
Oui, bien sûr, quand on a on réfléchit avant de publier à savoir qui arrange la publication de l'information. On n'est pas dupe non plus. Mais il y a quelque chose qui est important, ça va sans dire, mais ça va peut-être mieux en le disant, c'est que on a, en tous les cas, moi, le dimanche, j'ai appelé tous les interlocuteurs. C'est-à-dire que j'ai appelé Proglio qui m'a fait savoir qu'il ne voulait pas répondre. J'ai appelé longuement, j'ai eu une longue discussion avec Jean-Louis Borloo. Et l'essentiel était de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Après, est-ce que ça arrange des personnes, des partis? Probablement, on n'est pas totalement dupes, comme je vous l'ai dit. Mais surtout, est-ce que c'est exact? Et moi, quand j'ai eu Jean-Louis Borloo, et ça m'a fait sourire le lendemain, quand j'ai vu sa réaction, quand j'ai eu cette longue conversation avec Jean-Louis Borloo le dimanche après-midi...
Il ne dément pas, c'est le moins qu'on puisse dire.
En creux, il me l'a confirmé. Il veut pas revenir. Ça m'a fait amuser parce que Tapie, le lendemain, a réagi en disant qu'il était là, ce qui est complètement faux. Enfin, on va de mensonge en mensonge. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais quand Borloo me dit le dimanche après-midi... oui, pourquoi pas, mais j'en ai d'autres qui sont plus intéressants. Et puis voilà, il me confirme en creux que c'est vrai. En tous les cas, il n'y a pas de démenti. Je suis serein. Je suis serein sur la réalité de l'information.
Affaire Borloo, Veolia, qui croire et qui manipule qui? C'est dans le secret des sources à commenter sur France Culture avec Eric Decoutier de Libération et Julie Chauveau des Échos. Comme toujours, place maintenant au regard distancié de l'universitaire avec donc cette semaine Isabelle Vera-Masson du CNRS. Isabelle Vera-Masson, dans cette blitzkrieg, on pourrait appeler ça comme ça, de deux jours sur Veolia, on est finalement dans un cas d'une certaine façon typique d'utilisation de la presse pour des enjeux politiques et économiques. Et ça, c'est une histoire presque vieille comme le monde, non?
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver un certain nombre de structures que l'on connaît bien dans l'histoire de la presse, dans l'histoire des grands intérêts économiques, et puis la politique, et puis des choses complètement différentes. Par exemple, ce qui est ancien, ce sont ces liens, c'est le problème entre du secret. On doit être dans le secret, et pourtant tout va être su, tout va être mis sur la place publique. Donc c'est ce qui s'est passé. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a des circonstances exceptionnelles, vous disiez le mot, puisque nous sommes dans une circonstance de campagne électorale. Une campagne électorale très particulière, puisqu'elle se joue sur deux slogans tout à fait importants, qui est « La République irréprochable » et « Je suis... » selon Nicolas Sarkozy, le candidat du peuple. Donc on voit bien le caractère un peu compliqué du lien entre cette affaire Veolia-Borloo et puis la République irréprochable et le personnel populaire. Ça, c'est une première chose. Mais on pense forcément à cette longue histoire qui démarre, on peut le dire, en 1881, c'est-à-dire que la loi très libérale sur la presse, et qui va autoriser d'une certaine manière les patrons, les groupes financiers, à manipuler la presse en lien avec la politique pour gagner de l'argent. Et ça va être les coups de bourse, les scandales financiers qui vont, on le sait, entre les deux guerres, mener jusque presque à la fin de la République, hein, puisque l'affaire de la banquière Martano, l'affaire Oustric, l'affaire Stavisky, ce sont trois affaires essentielles qui vont mener aussi février 34. C'est un moment où la République est en train de vaciller et qui mêle à chaque fois un média, des pouvoirs économiques et des hommes politiques plus ou moins à la barre, en tous les cas, quelque part, ils sont sont là.
C'est de la manipulation, d'abord, pour revenir au débat qu'on avait tout à l'heure, d'abord de la manipulation économique ou de la manipulation politique, Isabelle Vermas?
Alors, je crois que chaque affaire est assez différente. Là, ce qui me semble intéressant, c'est que les médias ont changé. C'est-à-dire cette presse d'avant-guerre et d'entre-deux-guerres, dont on parlait de la presse vénale, on parlait du chantage, on parlait d'une presse qui constamment intervenait pour gagner de l'argent en jouant sur la possibilité qu'elle avait de faire remonter les cours de bourse, a changé. Évidemment, la presse française n'est plus une presse vénale. En revanche, elle a gagné en crédibilité. Et ces fameux manipulateurs, en tout cas ces pouvoirs économiques et politiques, vont jouer sur la crédibilité de la presse. Puisque finalement, sortir du secret, faire connaître, publier, faire du tam-tam, donner de l'écho, c'est d'une certaine manière pouvoir jouer là-dessus. Parce que si la presse n'était pas crédible, n'était pas utilisable, elle ne serait pas utilisable. Tandis que là, alors c'est la question de savoir, je me tourne vers les journalistes, est-ce qu'ils ont eu le sentiment qu'ils s'étaient allés chercher l'information ou est-ce que cette information était venue un petit peu facilement vers eux? Parce que quand même, je suis frappée par les deux journaux, les Échos.
Prémâchés.
Les Échos et Libération, ce n'est pas tout à fait des journaux qui se ressemblent. Et en plus, la concomitance entre les dates. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est le même week-end. Donc, on a le sentiment quand même qu'il y a eu au moins une interaction, ou sinon l'envie pour certains, de faire connaître. Et là, c'est intéressant de savoir si les médias ont été utilisés, et pourquoi pas, pour éventuellement des besoins démocratiques dans une affaire qui les dépasse.
Oui, c'est facile à répondre. Alors qu'on ait été utilisé, on ne peut pas répondre catégoriquement non. Mais en revanche, pourquoi est-ce que ça sort ce week-end-là? C'est parce qu'ils agitent le jeudi et le vendredi. C'est parce que
Borloo rencontre les administrateurs.
Borloo et les administrateurs se rencontrent. Ils en rencontrent 5, voire plus, pendant le jeudi et le vendredi, quasiment sur la place publique. Donc, c'est même un miracle que l'info ait réussi à rester secrète, entre guillemets, jusqu'au lundi matin.
Elle n'est pas complètement restée secrète, puisqu'elle est sortie sur une lettre confidentielle des transports. Et d'ailleurs, c'est donc la preuve que c'était pas si... Ils avaient parfaitement le temps de démentir. Ils ne peuvent pas jouer les innocents. Moi, j'ai appelé tant chez Proglio que chez Borloo le dimanche après-midi. Donc, ils avaient 200% le temps de démentir. Et la lettre est sortie le samedi soir à 23h. Donc, si c'était si faux que ça... C'était très facile de démentir.
Mais encore une fois, je reviens à mon idée de tout à l'heure. Est-ce qu'on s'est beaucoup polarisé cette semaine, enfin dans les médias généralistes, sur la dimension politique de cette affaire, en partie parce qu'on est en campagne électorale, comme le disait Isabelle Vermasson à l'instant. Est-ce que l'essentiel dans cette histoire, c'est pas une histoire juste économique et purement économique, de règlement de compte, comme vous disiez, entre deux grands patrons, point bas, dans lequel la presse a été un instrument?
Alors, si vous permettez, moi je vais répondre. Ce qui m'accable le plus, c'est que cette affaire-là ait duré 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 jour et demi de scandale et on a tout zappé dès le lendemain. Elle dit quoi, cette affaire? Qu'il y a l'intervention, plus ou moins directe, mais en tous les cas l'intervention du politique dans une grande entreprise pour placer à la tête de cette entreprise quelqu'un qui est un politique aussi. Petit arrangement, ça fait scandale pendant 1 jour. Le lendemain, à partir du moment où il y a des démentis, et puis que chacun retourne chez soi en disant « c'est fini, M. Borloo n'arrivera pas à la tête de Veolia », etc., on fait comme s'il n'avait pas existé.
Mais de fait, le conseil d'administration de Veolia la semaine prochaine, ça ne sera pas Borloo qui sera nommé.
Le fait que Borloo ne soit pas nommé n'enlève pas, ne retire rien au fait de l'intention du scandale. Il y a eu quoi? Il y a eu un grand patron, des administrateurs et le sommet de l'État qui se sont mis d'accord pour un arrangement en dehors de toutes les règles. Et ça dure 1 jour et demi. Tout à l'heure, on parlait de la rapidité de l'information, de cette information qui allait très vite pour les photos. Là, on a une telle...
Ça monte en pic et ça redescend au cinéma.
On oublie tout. Alors, ça renvoie à nous, notre responsabilité de journaliste, et l'ensemble des acteurs de la communication. Je pense que ça peut tous nous interpeller. Et de voir comment quelque chose qui est du domaine du scandale, qui est du domaine, en tous les cas, qui nous interpelle, comment est-ce qu'on en parle pendant 1 jour et demi et le lendemain, on l'évacue?
Moi, j'ai un autre point de vue, c'est que dans le business français, on ne tire pas les leçons des affaires. Moi, j'étais au cœur d'une autre affaire qui était celle de Vinci et du départ de son PDG, Antoine Zakarias. Il y a eu un énorme scandale parce qu'il a voulu être rémunéré pour avoir apporté à son entreprise les autoroutes du sud de la France et avoir fait que son entreprise gagne. Il a dû partir, il a voulu tuer son successeur. C'était un petit peu la même histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'au sein de l'affaire Vinci, il y avait Alain Minc. Et au sein de l'affaire Vinci, il y avait un autre administrateur.
On retrouve les mêmes, c'est ça?
On retrouve les mêmes. Et il y avait un autre administrateur qui s'appelle Serge Michel, qui est un très vieux monsieur qui a 83 ans, mais qui est quelqu'un qui n'est absolument pas très vieux dans sa tête et qui sait parfaitement tout ce qui se passe et qui est le patron du comité des rémunérations. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu de réflexion. Et ça veut dire qu'on a on n'a pas tiré les leçons de ce qui avait, à l'époque, été un très gros scandale. En plus, il y avait une histoire de retrait de chapeau. Enfin, voilà, c'était aller très loin et il ne s'est rien passé. Et ça continue.
Allez, on se quitte avec le clin d'œil de Yacine Bouzard qui, comme chaque semaine, se promène quelque part dans le secret des sources. Et cette semaine, il voit dans toute cette affaire Veolia-Borloo un billard à plusieurs bandes où, quand le journaliste qui croit être un joueur n'est qu'une boule parmi d'autres.
Le but du billard français et de caramboler les deux billes adverses, ici la rouge et la jaune, avec la bille du joueur, la blanche.
Et avec cette question ce matin dans la presse, mais quel avenir pour Jean-Louis Borloo ?
On peut ainsi enchaîner les carambolages.
Selon Les Échos et Libération, l'affaire s'est nouée dans le plus grand secret. Acte 1.
Dans le jeu à la partie libre, les points peuvent être exécutés librement. Ils peuvent également être réalisés par les bandes, une bande.
D'abord, il n'y a aucune réalité matérielle des faits.
Voire deux bandes.
Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Veolia a une véritable interrogation sur son avenir et que la discussion est ouverte sur la place publique.
Nous allons maintenant parler des attaques de billes. Billes en tête et fait à droite.
On est quand même dans un truc extraordinaire. Ça fait 24 heures qu'on est sur une rumeur. On commande des rumeurs. Regardons la réalité.
Attaque en dessous du centre ou en bas.
Acte 2, un accord secret Proglio-Sarkozy évoqué par Libération qui raconte comment le PDG d'EDF et le chef de l'État s'activent pour parachuter Jean-Louis Borloo.
Bille en tête et fait à gauche.
Mais dans quelle république est-on ? Jamais je ne l'accepterai.
Les effets ont pour rôle de modifier la trajectoire de la bille du joueur après avoir choqué la première bande.
Jean-Louis Borloo dément ces informations de presse, parlant de supputation, de manipulation, voire d'une volonté de nuire. Et pour confirmer ses dires, il déclare sa candidature aux législatives dans le Nord.
Plus précisément, l'effet a pour but de modifier l'angle de réflexion de la vie du joueur.
C'est samedi matin, c'est Billard, c'était signé Yacine Bouzard. Un grand merci à tous. Julie Chauveau, Isabelle Véramasson, Éric Decouty, Patrick Chauvel et Patrick Baz étaient ce matin dans Le Secret des Sources. L'affaire Borloo-Veolia, qui croire, comment ne pas se faire manipuler et comment continuer à travailler en Syrie comme photoreporter. C'est à commenter, à réécouter, à podcaster sur franceculture.fr. Notez également que les retours du dimanche demain seront également consacrés à la Syrie. Bruno Gagnère-Fontani était aujourd'hui au poste de pilotage en compagnie de Vincent Abouchard pour la réalisation et de Michel-Ange Vinti. Mille merci à tous les trois. Dans un instant, après le journal de Stéphanie Scock, il sera question de Saad dans Réplique avec Alain Finkielkraut. Prenez soin de vous et comme toujours, place au rembobinage final du Secret des Sources.
Moi, je crois que tous les théâtres de guerre sont compliqués. Alors, je ne sais pas si vous parlez des événements ou si c'est le travail des journalistes. Mais... Oui, bien sûr, il y a des degrés... De danger, là, en Syrie, c'est systématique, on est devenu l'ennemi, c'est très clair. Les Libyens, les journalistes qu'ils ont fait prisonniers, les ont rendus et à peu près en bon état. C'était une armée assez disciplinée quand même. Tandis qu'en Syrie, j'aimerais pas être fait prisonnier en ce moment. Je pense que ça se passerait très mal.
C'est vraiment impressionnant, ça m'a rappelé, et Patrick Chauvel va s'en souvenir aussi, ça m'a rappelé les images de Beyrouth des années, début des années 80. C'est absolument dingue, ils se comptent sur le bout des doigts les photojournalistes qui ont pu rentrer à Homs.
Ce qui m'accable le plus, c'est que cette affaire-là ait duré deux jours. C'est-à-dire qu'il y a eu un jour et demi de scandale et on a tout zappé dès le lendemain. Le lendemain, à partir du moment où il y a des démentis, puis que chacun retourne chez soi en disant c'est fini, M. Borloo n'arrivera pas à la tête de Veolia, etc. On fait comme s'il n'avait pas existé.